Il serait inexact de dire que les passions étaient devenues plus vives que sous la Fronde. Époque ardente entre toutes, mais elles avaient certainement changé de caractère, comme les goûts et les idées, la littérature, les modes en général. C'est le cours naturel des choses, et l'on a vu que le mouvement s'était précipité sous l'influence d'un monarque, tout puissant, déterminé à effacer le passé. Un événement artistique que l'on ne saurait négliger avait favorisé les dessins de Louis XIV, en ouvrant des perspectives ignorées aux curieux de sensations nouvelles, déjà nombreux au XVIIe siècle. La musique dramatique avait fait son entrée dans le monde moderne. Elle lui apportait, selon le mot de l'un de ses historiens, Monsieur Romain Rolland, son
pouvoir illimité.
Pour exprimer les passions et, dans les passions, ce qui en demeure incommunicable, avec le seul secours du langage. Que l'on aime ou non la musique, on doit comprendre qu'une découverte de cette nature exerce forcément une action sur la partie raffinée d'une nation. La société française n'y avait pas échappé. L'art nouveau était en train de modifier l'état nerveux, si j'ose ainsi parler du monde, où grandissaient, sous la protection royale, des idées plutôt périlleuses sur les droits de la nature et la fatalité de la passion. Il rendait de jour en jour ce milieu plus impressionnable. La musique dramatique est née en Italie. Cela va de soi. En 1597, un soir de carnaval, un riche Florentin fit jouer dans sa maison, devant un auditoire de choix, une tragédie en musique appelée Daphné, dont la partition est perdue. D'après l'un des invités,
le plaisir et la stupeur qui saisissent l'âme des auditeurs devant un spectacle si nouveau ne se peuvent exprimer.
Monsieur Romain Rolland confirme ce témoignage.
Ce fut un coup de foudre. Il n'y eut personne qui ne sentît qu'on était en présence d'un art nouveau.
En 10 ans, l'opéra italien eut pris toute son ampleur grâce à un compositeur de génie, Monteverdi, dont l'Ariane fit éclater en sanglots. Le soir de la première, un auditoire de plus de 6000 personnes. L'art du chant avait marché du même pas et atteint son apogée du premier coup. Un sopraniste fameux
jetait le public dans des transports que nous avons peine à concevoir. Beaucoup de personnes étaient obligées d'ouvrir brusquement leurs vêtements pour respirer, suffoquées d'émotion.
Des théâtres de musique surgissaient de toutes parts. Les grandes villes en avaient plusieurs, 5 à Venise, et cela ne suffisait pas encore. On jouait l'opéra dans les palais et les maisons particulières. Bologne possédait
plus de 60 théâtres privés, sans parler des couvents et des collèges.
Le clergé s'était laissé prendre dans le tourbillon. Moines et nonnes chantaient l'opéra. Des cardinaux se faisaient metteurs en scène. Un futur pape écrivait des livrets. C'était une épidémie, une folie, et l'Italie ne délirait pas impunément. Pour ses débuts, l'opéra eut à son acquis de graves désordres, nerveux et moraux. On l'aima trop. Mazarin en avait pris le goût avant de s'établir en France. Il voulut initier son pays d'adoption aux jouissances, presque redoutables, dont s'était brusquement enrichi la condition humaine et fit venir, l'une après l'autre, quatre troupes italiennes. La première en 1645, la dernière peu de temps avant sa mort. L'issue était aisée à prévoir. Un spectacle patronné par le cardinal devenait une question politique, applaudi par les partisans du ministre, dénigré par ses adversaires, l'opéra italien rencontra une telle opposition qu'il fallut y renoncer. Toutefois, la leçon n'avait pas été perdue. Nos compositeurs, voués jusqu'ici au ballet et au mascarade, n'avaient pas eu en vain la révélation du style dramatique. L'ambition leur était venue d'exprimer, eux aussi, les orages de l'âme, et ils s'étaient mis à tâtonner dans la voie nouvelle. Ils ne réussirent pas tout de suite, mais leurs essais familiarisaient le public avec l'idée d'un langage musical de la passion. En 1664, on en était venu à considérer le chant comme le truchement naturel de l'amour. C'est Molière qui fixe la date dans sa Princesse des Lides, où Mauron ne parvient pas à se faire écouter de Phyllis, parce qu'il parle sa déclaration au lieu de la chanter. Phyllis s'enfuit et Mauron s'écrie « Voilà ce que c'est. Si je savais chanter, j'en ferais bien mieux mes affaires. La plupart des femmes aujourd'hui ne se laissent prendre par les oreilles. Elles sont cause que tout le monde se mêle de musique. Et l'on ne réussit auprès d'elles que par les petites chansons et les petits vers qu'on leur fait entendre. Il faut que j'apprenne à chanter pour faire comme les autres. » Ce fut bien autre chose quand l'opéra français eut réussi à venir au monde. 1661. À peine né, il dut à l'association de Quinault avec Lully d'être un conseiller de volupté, tandis que les décors et les danses charmaient les yeux que les machines. Amusés par leurs complications ingénieuses, les vers et la musique murmuraient inlassablement, avec la même langueur caressante, que nul être jeune n'a le droit, pour aucun motif, de se refuser au devoir d'amour.
« Cédez, rendez-vous !»
chante un chœur d'Amadis. Les 13, tragédie lyrique. Donné de 1663 à 1686 par Quinault et Lully, sont toutes construites sur ce thème unique. Elles n'expriment que cette seule idée.
Cédez, rendez-vous !
Et finissent par tirer une certaine éloquence de leur monotonie. Lorsqu'on les joue au piano, faute d'un meilleur moyen de les connaître, on se rend compte qu'en dépit de la fadeur, cet appel continuel au sens pouvait produire à la longue, dans l'atmosphère particulière d'une salle de théâtre, un espèce d'entraînement. Les moralistes s'en étaient aperçus. La violente sortie de Boileau contre l'opéra est dans toutes les mémoires. Nous la trouvons aujourd'hui par trop vertueuse. Elle en est ridicule. Elle s'explique cependant. Si l'on considère combien il était nouveau de pleurer et d'avoir des attaques de nerfs en écoutant chanter, était-ce là morale lubrique? De Quinault qui agissait? Est-ce la nouvelle musique? Dans les deux cas, l'honnête Boileau était excusable de prendre l'alarme. La France n'en était pas au degré d'excitation de l'Italie. Nous ne sommes pas assez musiciens pour cela.
Dans une mesure moindre, le pays subissait pourtant l'extraordinaire pouvoir du style dramatique. On sait, par Madame de Sévigné, que si les salles françaises n'allaient pas jusqu'à éclater en sanglots ou à suffoquer d'émotions, plus d'un auditeur, à commencer par elle-même, pleurait silencieusement aux beaux endroits. La mode s'en mêlait, et nous savons de quoi la mode est capable en France. Saint-Evremont a fait une comédie intitulée « Les opéras ». On lit dans la liste des personnages « Mademoiselle Chrysotine, devenue folle par la lecture des opéras. Trisolé, jeune homme de Lyon, devenu fou par les opéras comme elle. » Un troisième personnage raconte que l'on ne parle d'autre chose à Paris. Les femmes et les jeunes gens savent les opéras par cœur. Et il n'y a presque pas une maison où l'on en chante des scènes entières. Voilà qui nous rapproche de l'Italie. La mode était partie du Louvre, où le courtisan se hâtait d'imiter le roi. Grand admirateur de Lully, il était arrivé à Louis XIV de dire, pendant les répétitions d'Alceste, que s'il était à Paris quand on jouerait l'opéra, il irait tous les jours. Ce mot, ajoutait Madame de Sévigné, vaudra 100 000 francs à Baptiste. Ce n'était pas affectation de la part du roi. Il aimait réellement la musique. On le reconnaît à des signes qui ne trompent point. Louis XIV eut toute sa vie le goût, et plus que le goût, le besoin de celle que l'on fait soi-même, à son heure, à son choix, à sa manière, et que ne remplacent jamais les plus belles exécutions des gens du métier. Adolescent, il jouait de la guitare et tenait sa place dans les ensembles. Devenu homme, il se trouva une bonne voix et sut s'en servir dans les réunions d'amateurs. On peut même dire qu'il chantait à propos et hors de propos. Le lendemain de la mort de son fils, le grand dauphin, les dames du palais, eurent la surprise d'entendre le roi chanter des prologues d'opéra. Dans ses toutes dernières années, alors qu'il était devenu inamusable, Madame de Maintenon lui organisait de la musique chez elle, et il y prenait toujours plaisir. Un soir, qu'elle avait substitué les vêpres aux partitions de Lully, Louis XIV se laissa faire et psalmodia les vêpres, pourvu que ce fût de la musique. Tous les genres lui étaient bons, avec une prédilection toutefois pour celui qu'il avait vu naître, qui était déjà si riche en émotions neuves et que l'on devinait chargé de promesses pour l'avenir. Le roi avait tout ce qu'il fallait pour en jouir profondément. Le lecteur n'a pas été sans s'apercevoir, à ses crises de larmes, que Louis XIV était un nerveux, sous les dehors froids et calmes qu'il s'était imposés. En avançant en âge, la disposition aux larmes prit chez lui un caractère maladif. Madame de Maintenon, parlant à une amie dans une lettre de 1705 des « vapeurs » du roi et de son humeur sombre, fait la remarque qu'il lui prend quelquefois des pleurs dont il n'était pas le maître. C'était aussi un sensuel à qui les thèmes amoureux n'étaient pas pour déplaire. « Cédez, rendez-vous !» Le roi ne cessait de le répéter pour son compte personnel aux jolies femmes de sa cour. Du reste, Quinault et Lully lui faisaient choisir leur sujet d'opéra. Il était donc pour quelque chose dans la mollesse
qui s'exhalait de leur œuvre. La musique dramatique s'est bien réhabilitée depuis. L'univers civilisé a éprouvé avec ravissement qu'elle disposait vraiment d'un pouvoir illimité pour exprimer les passions et toutes les passions les plus hautes, les plus héroïques, les plus pures, et j'y comprends l'amour. On s'est aperçu aussi que son langage pouvait fort bien se parler en dehors du théâtre, dans une symphonie, dans une simple sonate, et qu'il n'existait pas d'art aussi bienfaisant pour reposer et rasséréner les âmes troublées ou harassées. Malgré cela, malgré tout, les moralistes n'ont jamais désarmé devant la musique. Emmanuel Kant lui était nettement hostile. Il disait « Elle amollit l'homme !» Et il en détournait ses disciples. Tolstoï lui a été inclément dans la sonate à Kreutzer. Toutes les formes peuvent devenir dangereuses. Cela dépend de l'usage qu'on en fait et aussi des âmes qui reçoivent le choc. Il faut qu'elles soient de taille à le supporter. L'action de la musique sur la société française n'a jamais, que je sache, été étudiée méthodiquement dans ses effets physiques et moraux. Si elle trouve quelque jour son historien, il devra sortir des nouveaux laboratoires de psychologie à installation scientifique où l'observateur se double d'un médecin. À cette seule condition, il pourra parler avec autorité.